Vous êtes prêts? J'appuie sur le bouton.
Ok, super.
L'actualité des luttes. L'actualité des luttes.
Actu lutte.
L'actualité des luttes. L'actu à lutter débute.
Le poil est de retour. Bienvenue à tous et à toutes dans l'émission exceptionnelle Actu Lutte du collectif Le Poil à Gratter, qui a mis son beau pull d'hiver pour cette première et dernière de l'année. Alors pour rappel, hein, l'année dernière, vous pouviez nous entendre chaque mois, le vendredi à partir de 13h, où nous diffusions reportages, chroniques, faits maison sur les luttes ordinaires et plus sociétales. Alors cette année, on reprend tout doucement du poil de la bête avec cette émission aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons justement évoquer deux thèmes. Clémence, si tu veux justement nous les présenter.
Oui, alors on va commencer par une grande première partie sur l'accueil des réfugiés et plus globalement des personnes exilées. Ici à Besançon, on aura un son de Anna sur le traitement social et administratif des migrants. Et on fera un petit retour sur une émission de France Culture qui portait sur l'archéologie des migrations. Et pour la fin de l'émission, on terminera par l'écoute de quelques cartes postales sonores envoyées par des personnes du collectif Radio Poil à Gratter de Besançon.
Et comme actualité très récente, hein, dans 20 minutes à peine, il y a une marche pour l'accueil des migrants à partir de 10h30. Rendez-vous à l'esplanade des droits de l'homme à l'occasion de la journée internationale des droits humains. Clémence, justement, est-ce que tu peux nous présenter le programme de la journée de cette marche?
Oui, alors je vais vous lire le tract qui a été distribué à cette occasion. Toutes et tous, ensemble, nous marcherons de l'esplanade des droits de l'homme jusqu'à Chaudanne, puis vers la citadelle, pour dire haut et fort que les migrants et réfugiés doivent être accueillis dignement dans notre ville, notre département, notre région. Ils ne doivent plus être contraints de dormir à la rue. Leurs droits à être protégés, nourris, logés, soignés et leurs enfants scolarisés doivent être respectés. Nous, citoyennes et associations, syndicats, organisations, regroupés dans le collectif Solidarité Migrants-Réfugiés, nous voulons, par notre effort collectif de rendre honneur, signifier aux autorités de ce pays que nous n'acceptons pas le sort indigne qui est fait ici aux enfants, aux femmes, aux hommes venus demander asile et protection à l'État français, après avoir fui guerres et persécutions de toute nature. Alors là, je saute un petit passage. Avec toutes celles et tous ceux qui partagent notre indignation devant l'inertie des pouvoirs publics, face aux besoins élémentaires de personnes qui ont dû tout quitter pour sauver leur vie, nous voulons marcher pour qu'un accueil digne soit assuré à tous et à toutes. C'est-à-dire l'ouverture de places dans les CADA avec les moyens en personnel compétent nécessaires et le respect de tous les droits attachés à la personne humaine, prise en charge sans délai, arrêt de tergiversation administrative et couverture de tous les besoins vitaux. Donc le programme de cette marche, c'est le départ à 10h30 avec le rendez-vous à l'esplanade des droits de l'homme, qui ira jusqu'à midi à Chaudanne, où est organisé un petit pique-nique. Et puis la deuxième étape, ça ira de Chaudanne jusqu'à la citadelle, où à partir de 14h30 auront lieu des prises de parole et une animation musicale. Voilà.
Merci Clémence pour cette présentation du programme de la journée. Alors, on ne les a pas présentés, hein, mais avec nous également Florent et Anna.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Alors justement, là, on va écouter tout de suite un reportage d'Anna. Florent, est-ce que tu peux nous présenter, voilà, en quelques lignes, en quelques mots? Non. D'accord.
Non.
Donc c'est un reportage donc, qui a été fait, Anna, sur un travailleur social qui nous explique toute la problématique administrative, en tout cas voilà, de l'accompagnement des réfugiés et des exilés, en tout cas sur Besançon. Voilà, si je ne me trompe pas dans la présentation, Anna.
Donc oui, c'est bon.
Hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Parfait.
Eh bien, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Famille Jeudi.
Alors, je vais te demander d'abord de te présenter et de me dire pour qui tu travailles.
Alors, David Guéret, éducateur spécialisé depuis pas mal de temps. Je travaille sur Besançon, sur un centre d'accueil de demandeurs d'asile, qui est géré par une association qui s'appelle l'hygiène sociale de Franche-Comté. Il y a 3 associations sur Besançon qui gèrent des dispositifs d'accompagnement pour demandeurs d'asile. Donc je suis sur une de ces 3 associations. Voilà.
Est-ce que tu peux me dire exactement en quoi consiste ton travail ?
Le demandeur d'asile, il arrive. Alors, dans le cadre de la procédure, on l'aide à constituer son dossier de demande d'asile qui va être transmis à l'OFPRA, qui est une administration qui va statuer dans la première instance, enfin une administration qui va statuer donc sur la demande d'asile. Et puis, s'il y a refus, il y a une deuxième instance, là, un tribunal qui s'appelle la CNDA. Donc on va aussi les accompagner dans ce cadre-là. Et sur les démarches socio-administratives, socio-éducatives, il y a plus qu'il y a l'accès aux droits, protection sociale en particulier, scolarisation, et puis tout un tas de choses qui sont un peu floues, mais qui peuvent être éventuellement saisies autour de l'animation collective, d'actions pour aider des personnes qui pourront peut-être rester sur le territoire français à commencer à appréhender ce que c'est un budget, ce que c'est vivre ensemble, ce que c'est la société française, etc. etc.
Pour toi, quelle a été l'évolution du traitement des demandeurs d'asile d'un point de vue administratif ?
La nouvelle loi qui a été promulguée en juillet 2015, elle vise officiellement, dans les grandes lignes, à raccourcir les procédures. C'est vrai que c'est y a un aspect positif. Dans la mesure où il était assez inhumain de laisser dans l'attente des familles, des personnes très longuement pour à terme leur demander après un refus de leur demander de partir quoi, enfin exiger qu'ils puissent partir. Donc il y avait quelque chose d'inhumain. Donc raccourcir les procédures c'est bien à condition qu'on donne vraiment les moyens de la prise en compte de ce que c'est. S'inscrire dans une demande d'asile, être dans l'attente, et là aussi il faut quand même malgré tout un peu de temps. Donc raccourcir les procédures si c'est créer espèce de procédure expéditive et ça peut être compliqué. Et on s'aperçoit que en fait les choses elles évoluent plus dans ce sens-là. Voilà, c'est-à-dire que tout n'est pas en place. Hein, c'est une loi qui est récente, mais il y a effectivement une accélération des procédures, des démarches, des réponses pour une bonne part. C'est inégal en fonction des régions de France. Hein, sur la région parisienne, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quelque chose qui est un peu expéditif et qui permet pas aux gens réellement de mûrir, surtout quand il y a une deuxième instance après l'OFPRA, de mûrir leur procédure. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. Si je continue à répondre, il me semble important de dire que ce qui est très très particulier quand on est travailleur social sur un établissement médico-social qui s'appelle un CADA et qui accueille des demandeurs d'asile, des personnes donc. Ce qui est très particulier, c'est que ces personnes, elles arrivent en France pour demander une protection de l'État français. Et donc elles sont dans l'attente d'un statut administratif, un statut. Mais en même temps, elles arrivent avec une histoire et elles ont besoin aussi comme chacun, d'une reconnaissance en tant que personne. Voilà. Et ces deux choses-là, la reconnaissance statutaire et la reconnaissance en tant que personne, en fait, c'est deux dynamiques qui ne vont pas forcément... Enfin, qui peuvent aller ensemble, mais qui vont pas forcément, enfin, qui sont pas inscrits sur la même temporalité. Voilà. Et la deuxième, cette deuxième dimension, la reconnaissance en tant que personne, surtout dans cette démarche de vouloir expédier les procédures, elle empathie énormément, quoi.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un peu moins humain.
Dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'asile, comme malheureusement dans le travail social en général en France, oui, il y a une orientation vers davantage de technicisation des procédures, de l'intervention, qui laisse moins de place à la rencontre humaine, au temps perdu qui finalement est du temps vécu, du temps gagné, du temps de rencontre, etc. Ouais, tout à fait.
Donc aujourd'hui, je vais vous donner votre rendez-vous à la préfecture, votre rendez-vous pour votre récit et votre rendez-vous à la sécurité sociale.
حتى وديك موعد عشان البريفكتور تروحي على البريفكتور على شفتي المكان ده لو عرفتي البريفكتور
البسمة اللي بنعمل فيه بسمة
هناك وين تعملي البسمة
انا كنا بس كنت اكلم عن هوتيل
كمان
اكلم عن هوتيل
الفيك جو تو بارل بور لوتيل
Pas pour le moment, là on s'occupe de la préfecture. Je pense que c'est plus important que votre hôtel, la préfecture. Parce que vous êtes là aussi en France pour demander l'asile, madame. Donc quand on aura fini avec tous ces rendez-vous, on verra pour l'hôtel.
J'aimerais savoir si tu penses que il y a un durcissement au niveau administratif en France et puis en Franche-Comté.
Quand on priorise les procédures, oui, il y a toujours le risque d'un durcissement, surtout quand, et c'est le cas malheureusement, on suspecte, c'est l'État, l'administration, je ne veux pas être trop caricatural, hein, mais suspecte les demandeurs d'asile, ou un certain nombre de demandeurs d'asile, d'être venus pour des mauvaises raisons. Sous l'ancien gouvernement, mais encore maintenant, ce débat très nauséabond sur les demandeurs d'asile légitimes, qui seraient des vrais demandeurs d'asile politiques, et Sarkozy qui a même parlé de demandeurs d'asile de guerre, alors que c'est des choses qui existent, qui sont déjà reconnues. Par ailleurs, les demandeurs d'asile, les faux demandeurs d'asile, qui seraient éventuellement des demandeurs d'asile économiques, et qui n'a aucune légitimité à avoir un statut en France, quoi. Et quand il y a ce préalable-là, et c'est le préalable malheureusement de la politique française, oui, il y a un durcissement réellement. Par exemple, et puis qui se décline de façon assez concrète. Là, en première instance, c'est une administration qui statue sur la demande d'asile. Elle n'est pas réellement plus rude qu'elle l'était avant. Au niveau de la deuxième instance, c'est NDA, donc le tribunal qui y a possibilité d'appel, quand on a un premier... Là, oui, il y a un durcissement réel. Avant, il y avait plusieurs personnes, dans le cadre du tribunal, qui y a plusieurs cours, plusieurs chambres, qui étudiaient la demande avant l'audience. Aujourd'hui, c'est que le président qui, de façon assez expéditive, en fait, regarde les choses, ce qui fait qu'on a... pour des manques de temps ou une subjectivité trop, trop marquée de certains présidents, beaucoup de présidents, en fait, on a même plus de rejets par ordonnance, c'est-à-dire sans audience, sans étude réellement, qu'auparavant. Ouais. Donc là, c'est des choses qui sont assez nouvelles, à laquelle on est confronté. Dernièrement, là, on a, dans notre CADA, un couple avec deux enfants qui étaient là, qui ont eu un rejet OFPRA, qui ont produit d'autres éléments dans le cadre de leur recours antérieurement, au moins quand il y avait d'autres éléments apportés, d'autres documents, il y avait une étude plus, même s'il y avait un rejet à terme, mais c'était toujours possible, évidemment, il y avait une étude plus importante du dossier. Or là, ils ont reçu de façon très brusque un rejet par ordonnance. Alors c'est quelque chose qui est très brutal parce qu'il n'y a pas de recours. Et donc les personnes se voient, sans même avoir pu être entendues, se voient d'un seul coup exclues. Donc oui, il y a un durcissement réel sur la demande d'asile. Et puis, puisque c'est une question souvent qui irrigue la société française aussi sur la question des sans-papiers. C'est, par exemple, pour les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, pour un certain nombre, elles vont continuer, pour des raisons qui leur sont propres, continuer à chercher à rester sur le territoire français, donc de façon illégale, puisqu'elles n'ont plus de possibilités. Pour un certain nombre, vont demander, pour des raisons sanitaires en particulier, fin de santé, une régule santé au préfet, qui seul peut sans avoir à justifier, accepter ou refuser. Et là, à ce niveau-là, on constate dans toutes les régions de France, et de façon très là, caricaturale en Franche-Comté, un durcissement énorme. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quasiment plus de régules du tout d'octroyer sur le territoire régional. Et ça, c'est très rude, quoi.
Est-ce qu'il y a une évolution de la part des travailleurs sociaux dans le traitement des migrants?
C'est une bonne question parce que j'aurais envie de répondre déjà en disant au préalable que la professionnalisation de l'accompagnement des migrants, des demandeurs d'asile, est assez récente. Donc c'est une démarche ou un processus de professionnalisation qui est en train de se construire. Alors, il se construit comment? Il se construit, pour les demandeurs d'asile, déjà avec une priorité qui est donnée à l'accompagnement de la procédure de demande d'asile. Et on voit qu'elle se renforce d'ailleurs actuellement. Ce qui fait que les travailleurs sociaux sont amenés, bon gré mal gré, explicitement, plus ou moins explicitement, plus ou moins implicitement, à devenir quelque part, ou être obligé d'être quelque part des quasi ou pseudo-experts de la demande d'asile. Qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut pas écrire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, etc. Qu'est-ce qu'il faut produire comme document,
voilà. Donc moi maintenant j'aimerais bien qu'on passe à vos rendez-vous. Parce qu'elle m'a pas l'air bien intéressée, quoi. Elle est pas en touriste ici, quoi. Vous vous intéressez à l'entretien, vous faites quoi? Donc si vous pouviez rapprocher un petit peu votre chaise, s'il te plaît.
Il faut que tu grandisses un
peu. Non, parce qu'elle
a très mal au dos.
Ouais, mais moi je veux bien, mais elle peut approcher sa chaise aussi.
Il y a une chaise qui est.
Ok. Voilà. C'est plus facile, parce que sinon moi je peux pas aller jusque là-bas pour vous montrer vos adresses.
Voilà. Moi, j'ai jamais vu une assistante sociale ici qui a engueulé une famille parce qu'il est venu, il a demandé qu'elle a vu un hôtel pour le changer. Je suis désolé, mais moi, je fais la traduction.
Moi, j'aime pas.
Moi, la dame, ouais, d'accord, mais personne n'aime. Mais elle dit qu'elle était chez sa copine, que la journée, elle ne peut pas rester dans son hôtel parce qu'elle est enceinte de 8 mois. Donc, dans 6 jours, elle va accoucher et qu'elle est au 4e étage et qu'il y a cuisine en bas et qu'il y a toilette. Toilette, elle est en bas. Donc, moi, une personne, elle me dit ça. Moi, votre travail, vous le connaissez mieux que moi. Moi, je sais pas, moi, je vous fais la traduction. Tout ce que je veux envie de faire, c'est d'éclaircir ce que la dame a envie de dire. Si tu veux qu'on dise les choses clairement, elle s'est sentie un peu trop. Elle me l'a dit. Elle s'est sentie un peu trop. Oui, alors que la meuf, elle regardait, bon, qu'est-ce que j'ai fait, quoi.
Pourquoi j'ai été agressive? C'est qu'en fait, madame, elle me dit, oui, j'ai besoin de vous parler de quelque chose de l'hôtel. Oui, mais à l'hôtel, on verra ça tout à l'heure, madame. Mais là, il y a la préfecture, il y a la CPM, il y a le rendez-vous avec moi, il y a le rendez-vous avec Juliette. C'est des choses super importantes. Oui, l'hôtel, c'est une chose. Et puis, il y avait parce tout le côté alimentaire. Parce que madame est enceinte et parce qu'elle va avoir un bébé, il faut gérer tout le côté alimentaire.
C'est quand, par exemple, on lui dit, il faut se rapprocher, on n'est pas autoriste ici. Par exemple, moi, ça, je peux pas, tu vois, je peux pas le traduire. Est-ce que comment je vais lui dire? Je lui dirais, oh, s'il te plaît, t'es pas chez toi ici, tu fermes ta gueule et tu te mets comme nous, on te demande.
Parce qu'en fait, elle était hyper loin.
Oui, mais le fait de lui dire, écoute, t'es pas en touriste ici, tu vois, le fait de lui dire, écoute, tu t'approches, t'es pas en touriste ici, moi, je peux pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Et même si moi, j'aime bien quand la personne parle, j'ai traduit.
J'étais trop agressive.
Hein?
J'étais trop agressive.
Non, t'étais juste un peu nerveuse. Parce que t'aimerais bien tout faire bien.
Et on voit bien qu'à l'échelle de la société, il y a un durcissement au niveau de la vision, du regard qu'on porte sur les demandeurs d'asile et plus largement sur les migrants. Est-ce que ça contamine d'une certaine manière les travailleurs sociaux?
Alors, ça peut peut-être paraître paradoxal, mais déjà, les travailleurs sociaux sont des citoyens avant tout. Et même si on pourrait imaginer, ou en tout cas espérer qu'ils soient moins dans de l'a priori, dans des fausses analyses, par rapport en tout cas aux personnes avec lesquelles elle travaille. C'est pas si évident que ça. Voilà, c'est des citoyens qui sont déjà qui pensent comme les autres en grande partie. Je vais pas, enfin, il s'agit pas d'imaginer que les professionnels sont des gens pour une petite part, voire encore moins pour une bonne part, réfractaires aux migrants. Ils font leur travail avec souvent et beaucoup d'empathie et vis-à-vis des migrants. Sauf que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que resserrer sur ces dimensions d'accompagnement socio-administratif, quelquefois ça peut être compliqué pour justement avoir une conception plus humaine, plus large, plus poétique des choses.
You got 5 points and you told me every point. So now okay, you go to pharmacy. You ask for price. Okay? You come back with price.
Okay.
We'll give you money for photo and for medicine.
Okay.
Des tickets resto, j'en ai. Attends. Je les ai préparés pour quelqu'un d'autre aussi. Zut, je les ai préparés pour quelqu'un d'autre. Bon, le quelqu'un d'autre, il viendra pas aujourd'hui. Eh ben, je vais y donner là. Attends, c'est pas la question. C'est pour une autre famille, c'est pour ça.
Because it's for another family. Look the name.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je me débrouille autrement. Et il y en a que 5, hein, parce que c'est tout ce qui me reste.
J'aimerais une ambulance.
Putain, faut que je refasse mes mitoles.
What happened? My mom. Like my mother. Okay, really? I'm sure. Like my mom.
Il dit que t'es comme sa mère.
Ah bon?
She's good. Really?
Il a dit que t'étais une bonne personne comme sa mère.
Ouais,
ben.
Merci.
Ah, hey,
attends,
pour faire.
Il revient.
Bah oui, mais enfin, j'aime pas me balader avec les autres.
La maman.
Oui, your wife stay here.
Yeah.
Ok.
Est-ce que donc parmi ces travailleurs sociaux, il y en a certains qui sont davantage politisés et qui finalement souhaiteraient prendre un engagement plus militant. Et plus contestataire vis-à-vis de ce durcissement du traitement des migrants.
Voilà, il y a un appel qui a été un appel des professionnels qui a été lancé. Ils revendiquaient des meilleures conditions de travail pour permettre une prise en compte plus humaine des personnes avec lesquelles on travaille, des migrants avec lesquels on travaille. Mais autour de moi, je constate qu'ils sont très très peu en fait à avoir envie de s'engager davantage, quoi. Parallèlement, il y a aussi d'autres actions. Là, on parlait tout à l'heure des associations militantes. Elles fournissent un gros travail, elles sont très très précieuses. Et par exemple, la CIMAD, pour citer que la CIMAD, mais qui fait un gros boulot, est très précieuse, y compris dans ce que pourrait être la prérogative de professionnels. Hein. Voilà, donc, et ces associations, confrontées plus militantes, ont éprouvé le besoin, enfin je vois localement, de se fédérer face justement au durcissement des règles de procédure, au durcissement à l'amoindrissement de l'accompagnement, en tout cas dans sa dimension humaine, et de la prise en compte des situations des gens globalement, ont eu besoin de se fédérer pour peser davantage. Donc il y a eu localement, mais sur le terrain. Donc, associatif militant, la création d'un collectif très récemment sur la région. Mais les professionnels restent un peu à l'écart de ça. Voilà, pour pas dire davantage. Pour terminer dans la suite de ce que je disais, oui, moi j'aimerais bien insister par rapport à cette question d'appel, de revendication, de redimensionner l'accueil, l'accompagnement des demandeurs d'asile. Ouais, je voudrais inviter les collègues, que j'ai proches, mais partout en France, à essayer d'aller se renseigner, à davantage s'engager, et puis à bien considérer que leur métier est précieux Et justement, qu'il y a besoin de le soigner, il y a besoin de le valoriser, et qu'il y a des choses à gagner, et faire attention aux évolutions en cours.
Un grand merci à David pour son regard sur le traitement administratif et social des migrants. Vous avez aussi entendu des extraits du documentaire de Claudine Boris et Patrice Chagnard, Les Arrivants.
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux.
It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday.
Combien de pays traversées, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous, je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout, arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous, j'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous.
Vous venez d'écouter « J'ai marché jusqu'à vous », une très belle chanson composée par Ashka Kadour Adadi et qu'il a composée spécialement pour un film du même nom, « J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée ». C'est un film documentaire de Rachid Oudji qui montre le quotidien de jeunes ayant moins de 18 ans souvent, qui arrivent d'Afrique et du Moyen-Orient et qui arrivent à Marseille. Donc vous êtes toujours avec le collectif Poil à gratter sur Radio Campus, sur les ondes 102.4. Et on continue de parler de ce thème, de parler de personnes exilées, de réfugiés, de migrants, et cette fois sous un angle historique.
Comment fait-on pour pouvoir, à partir de l'ADN, mieux comprendre cette question des migrations ?
C'est vrai, le génome, c'est un archive, c'est un patrimoine, autant que d'autres patrimoines, un patrimoine très important. Et qui nous a montré qu'on est tous africains, mais en plus, on est tous des métis. On est métissés avec des populations dites archaïques, qui étaient en Eurasie, avant l'arrivée de Homo sapiens, qui a évolué en Afrique. Et qui après, en sortant de l'Afrique, s'est mélangé avec d'un côté les Néandertaliens, de l'autre côté, en Asie, avec des Denisoviens. Et les Denisoviens, c'est une lignée humaine qui était inconnue à la paléanthropologie, qui se révélait uniquement par son génome. Quand j'ai dit uniquement, c'est pas un terme pour limiter l'information. Au contraire, l'information que donne un génome est énorme.
Alors, vous venez d'entendre Eva Maria Gale qui nous dit que nous sommes tous des métis. Elle pratique la paléogénomie. Donc c'était un extrait de l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, à la suite d'un colloque sur l'archéologie des migrations organisé fin 2015 par l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Alors en me penchant moi-même sur l'histoire des migrations, je me suis retrouvé au-dessus d'une zone sombre qui donne un peu le vertige. En effet, il semblerait que nous ayons été manipulés par ceux qui fabrique l'histoire officielle. Et c'est en partie la paléogénomie qui a levé le voile. Par exemple, moi-même, j'avais appris pendant ma scolarité, il y a déjà 35 ans, que les barbares avaient envahi l'Empire romain vers 375, provoquant ainsi sa chute. Que nenni ! L'historien Patrice Brun nous explique que c'est un mythe fabriqué par les Romains eux-mêmes afin de justifier un certain désordre interne et stigmatiser des tribus qui, à l'époque, étaient plutôt autonomes. Donc, forcément, les écrits restent. Ils sont ensuite repris par les historiens du Moyen-Âge. Puis, à la suite de Luther, ce sont les Européens du Nord qui font des Germains leurs ancêtres. Ils voient en eux un seul et même peuple, qu'ils disent pur. Donc, ces idées vont faire leur chemin jusqu'à l'unité allemande en 1871, et culmineront avec les théories nazies. Même manipulation concernant les Vikings, nous explique Vincent Carpentier, archéologue à Caen. Il n'y a pas eu de choc de civilisation entre Vikings et populations locales, mais un processus anthropologique complexe fait de rencontres, d'échanges, d'assimilation et d'acculturation réciproques. Le mythe d'une Gaule réduite à l'hexagone serait une réinterprétation historique des fondateurs de la République au XIXe siècle afin de renforcer l'idée d'une identité nationale. Finalement, mes livres d'histoire d'il y a 35 ans sont devenus eux-mêmes des documents historiques qui mettent en avant la manipulation intellectuelle des gouvernants sur les gouvernés. Je vous rappelle quand même que M. Fillon a déclaré récemment qu'il faudrait que les maîtres ne soient plus obligés d'apprendre aux enfants que le passé est source d'interrogation. Bah tiens donc! Évidemment, puisque c'est avec ces mêmes références historiques orientées que lui ou Mme Le Pen continue à manipuler le badaud en lui faisant croire que l'immigrant est un barbare qui met en danger l'identité nationale. Ce sont des mythes dangereux qui sont à l'origine des guerres les plus meurtrières et des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. Les Celtes n'étaient pas des barbares, pas plus que les Vikings. Les barbares eux-mêmes n'étaient peut-être même pas des barbares. En fait, ce sont des mythes qui sont le fruit d'une construction psychique et politique qui prend racine dans la peur, la haine et la stigmatisation de l'autre.
Merci Florent. Une petite pause musicale maintenant avec les Dak Daughters, qui sont sept ukrainiennes, des purs frics, pas chic du tout, qui font mordre la poussière de tous les clichés féminins qu'on voudrait leur coller.
Зрозуміти, чому на світі так багато зла, 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 зла,
чому на світі на світі так багато зла,
чому на світі на світі так багато.
Добре,
навіть літає, може все вона,
ага,
але одного я не можу зрозуміти.
Чому на світі так багато зла, 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 зла?
Чому на світі так багато зла, багато зла?
Чому на світі так багато зла, багато?
Але бракує їй чомусь ума, не здатна над собою панувати.
Тому на світі, тому на світі так багато зла,
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 на світі, тому на світі так багато зла.
Voilà, c'était les Dak Daughters sur Radio Campus Besançon avec, voilà, pour l'émission Actu-Lutte du collectif Le Poil à Gratter. Alors là, on va passer à un tout autre genre, c'est le concours des cartes postales sonores. Alors peut-être que vous vous rappelez pas, hein, mais récemment, en octobre dernier, Radio Campus organisait la deuxième édition du festival Hors les Murs, au FRAC cette fois-ci. Un festival où se mêlaient conférences, laboratoires sonores, expérimentation sonore. Et note originale pour cette deuxième édition, un concours de cartes postales. Le thème était suffisamment rassembleur pour avoir du succès. Le thème, c'était l'été. Et Le Poil à Gratter a décidé, eux aussi, de se lancer dans ce concours de cartes postales. Alors, on va écouter trois cartes postales. La première, ce sera celle de Florent. Alors, Florent, peut-être tu peux nous présenter de quoi parle cette carte postale.
Oui, bien sûr, Ben. Donc, souvent, durant les beaux jours, en été particulièrement, je pars de Battant à vélo et je monte à la chapelle des Buis. J'aime me promener le long du Doubs. Puis en fait, la montée à la chapelle des Buis est un peu sportive et elle se termine avec le long chemin de croix. Donc souvent, arrivé en haut, j'aime aller me reposer dans la petite chapelle. Donc souvent, je m'y remémore en fait des moments de mon enfance pieuse.
Voilà, donc ça c'est à écouter tout de suite. Juste ouais. Après, ce sera Burkini Song, une carte postale de Lucie Puydenu et de moi-même. Et on finira par celle de Clémence qui n'a pas pu, ou nous n'avons pas eu l'occasion de l'écouter pendant le concours de carte postale, mais elle a décidé pour aujourd'hui, en tout cas pour cette émission exceptionnelle, de la diffuser. Le thème est surréaliste. Voilà, on écoute tout de suite donc celle de Florent.
Pieuse. Ce jour d'été ensoleillé, j'ai proposé à mon amie Anna de venir jouer avec moi.
Jeu d'enfant à la chapelle des Buis.
Ça y est.
Ton catéchisme. Tu es une vilaine sœur. Voilà, je te prends par les oreilles. Ah, on n'aime pas, hein, quand Dieu vous fait mal, quand Dieu vous punit.
À ton avis, le...
Est-ce non. que t'as déjà...
Non, le...
Toi, dis quoi, toi ?
La moutarde plutôt frigo ou plutôt...
Comment ça, d'ailleurs ?
Placard. T'en penses quoi, toi, du vaccin ?
T'as déjà débattu sur...
T'as réfléchi à la présence de Black M à Verdun ?
Est-ce que t'as déjà réfléchi ou discuté avec des gens ?
Tu trempes les tartines ou pas ?
Tremper ces tartines ou pas ?
S'interroger sur la...
Se poser la question.
Réfléchir. T'es pour ou contre le burkini, toi ? T'en penses quoi, les lignes Macron ?
T'es
tu sais, les lignes de bus ?
Pour... Ah, au fait, t'as écouté le dernier album de Renaud ? Pour la main sur le cœur pendant la Marseillaise.
Sur les chaussettes dans les sandales.
T'es pour ou t'es plutôt contre
les sondages ? T'es pour ou contre le burkini, toi ? Tu t'es déjà demandé si on devait faire dormir un nourrisson sur le dos ou sur le ventre ?
Le défilé militaire du 14 juillet. Les scouts. T'es pour ou contre? Je sais pas, t'en penses quoi, toi? À ton avis, le...
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. T'en dis quoi, toi?
Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur le port de l'uniforme à l'école?
On a déjà débattu sur ce que tu penses de la réintégration des élèves en équipe de France.
T'es plutôt VTT électrique ou sans assistance électrique?
T'es pour ou contre le burkini, toi?
T'es plutôt pour ou contre Besançon? Et le burkini. Et le burkini.
Homéopathie ou allons contre le burkini, toi?
Et le burkini. Et
le burkini.
Je me pose la question, je sais pas si c'est ton cas, mais les scouts. T'es pour ou contre? À ton avis, le.
T'en dis quoi, toi? T'as déjà débattu sur. Tu t'es déjà questionné, tu t'es déjà demandé, toi t'en penses?
T'es plutôt pour ou contre le débat? Toi?
Tous les étés, je me pose la question. Tente de secondes ou tente canadienne?
À ton avis, les cartes postales sonores, t'es contre ou...
L'été est interminable. Le temps s'étire, s'étire, comme un vieux chewing-gum. Soleil de plomb, lumière écrasante, jaunâtre. Mêlant sa couleur aux odeurs de poubelle. Le bitume en fusion colle les semelles. Fige les silhouettes, arrête le mouvement. Seule la rivière s'agite, tourbillonne, depuis 2 semaines déjà sans explication. Une vague gigantesque de celle que l'on nommerait scélérate s'écrase de temps à autre sur le minotaure accablé, éclaboussant de son odeur d'eau croupie les quelques étourdis qui espèrent encore trouver sur les quais une fraîcheur. Absente pourtant de la ville depuis 6 longues semaines. La péniche touristique apparaît parfois, aux quelques heures d'accalmie, et ressemble à un bateau fantôme, hanté de quelques égarés hagards. Avait-il l'espoir de s'échapper de l'horreur? Pourtant, nulle cachette, nul recoin. La ville entière assiégée. On économise ses gestes. Les membres sont les membres. La peau dessus semble fouffe et pas coulante et grisâtre. Nous sommes des mollusques géants qui nous agglutinent des façades pour éviter que la moindre parcelle de les bruits se raréfient, seules quelques rumeurs s'échappent. On parle.
C'était effectivement la carte postale surréaliste de Clémence, voilà, qui aurait pu remporter en tout cas le prix si elle l'avait présenté. Et à ce propos, ce que Florent vous a pas dit, hein, c'est qu'il a gagné un prix lors de ce concours de carte postale sonore. Et quel prix d'ailleurs, hein, le fameux vinyle, l'anthologie du silence. Voilà, c'est une grande fierté en tout cas pour le collectif du Poil à gratter. Alors nous arrivons au terme de cette émission, hein, exceptionnelle, c'était le Poil à gratter pour Actulutte. Merci à Clémence, Anna et Florent. Et là, il y en a encore d'autres hein, dans ce collectif, hein. Il y a encore Johan, Manu et Loïc qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, concernant la marche pour l'accueil des migrants, c'était aujourd'hui, vous pouvez la rejoindre à partir de midi, puisqu'il y a un pique-nique qui est organisé au fort de Chaudanne, puis une rando qui se dirigera vers la citadelle. Quant à nous, eh bien, on se retrouve en 2017 sur ce nouveau créneau, qui est donc le samedi matin à 10h. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, et bon week-end à vous sur Radio Campus Besançon 102.4. Et on écoute pour finir Mia et la chanson Bad Girls.
Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game. Read the signal. Cover me, cause I'm changing, light a handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm running, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.